c'est un long apprentissage que de savoir rejoindre enfin la vie qui nous va. Cela fait 3 ans qu'à travers ce podcast, nous vous proposons de découvrir les femmes et les hommes qui nous inspirent. Je suis toujours Charlotte, cofondatrice de Juillet, l'agence événementielle dont la raison d'être est la rencontre. Et pour cette saison 4 de l'Instant Juillet, je vous invite à partager avec nous la suite de notre aventure. De l'idée de Juillet à sa naissance, de nos imprévus à la création de vos événements, de nos détours à la réalisation de nos ambitions, une seule chose n'a jamais varié, notre été invincible. Alors, nous vous proposons pour cette nouvelle saison de rencontrer les personnes dont la réussite nous inspire et de découvrir ensemble le sens de leur été invincible. Rien n'est possible sans envie, rien n'a de sens sans rencontre. Alors posez-vous, respirez et savourez avec nous votre instant juillet. Pour notre 49e épisode, nous avons la chance de recevoir Éléonore Balenci. Si vous ne connaissez pas encore cette femme, vous allez rapidement comprendre pourquoi nous avions envie de vous la présenter. D'abord parce que depuis 10 ans, Éléonore travaille entre l'édition, le journalisme et l'événementiel, puisqu'elle anime des congrès, conventions ou conférences, mais aussi parce qu'elle s'est lancée dans le challenge de relancer la marque Balenci, dont j'ai hâte qu'elle nous raconte l'aventure. Quand nous avons construit Juillet, il était évident pour nous d'en faire une marque pour affirmer un positionnement, mais surtout des valeurs, une philosophie de vie, un pourquoi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré une multitude de projets, des nouveaux challenges, des nouvelles idées, nous avons toujours une cohérence, une évidence sur ce qui nous porte et dirige notre chemin. Et je crois que c'est ce que nous avons en commun avec notre invité. Vous l'aurez compris, nous étions très impatients de rencontrer Éléonore et nous sommes heureux de vous la présenter, le temps d'un instant Juillet. Éléonore, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'Instant Juillet. Alors, quelle merveilleuse excuse ce podcast pour se rencontrer. Avec Cédric, nous t'avions connu car nous cherchions à travailler avec des animateurs d'événements et nous avions adoré ton positionnement éditorial avec l'importance du fond dans la prestation que tu proposes aux entreprises. Et puis, nous avons découvert que tu reprenais le flambeau de la maison Balenci. Alors avec Cédric, on s'est dit, une nana qui éditorialise ses animations, qui passe du média à l'événementiel et qui relève le challenge de relancer une marque de prêt-à-porter, il faut qu'on la rencontre. Alors évidemment, on a plein de questions à te poser, mais la première que j'ai envie de te poser est comment tu te présenterais ? Qui est Éléonore ?
Alors c'est vrai, tu as bien résumé en effet cette double casquette aujourd'hui, dont je suis très fière. Mais pour me présenter, je dirais que je suis d'abord journaliste animatrice d'événements pour les entreprises. Donc ça va couvrir une multitude de formats comme des conventions, des séminaires, des remises de prix, des tables rondes, etc. Dans des secteurs variés, puisqu'aujourd'hui je n'ai pas de domaine d'expertise à proprement parler. Et c'est ça aussi le plaisir pour moi dans l'animation, de pouvoir découvrir plein de thèmes, plein de sujets. Et c'est vrai qu'en parallèle, cette activité, depuis, en fait, je travaille avec cette marque depuis que j'ai à peu près 18 ans, 19 ans, aux côtés de mon père. Et j'ai repris le flambeau suite au décès, malheureusement, de mon père en 2021. Et on en parlera, mais j'essaye en effet de relancer cette marque qui est un petit peu en déclin depuis quelques années, mais qui a toujours énormément de valeur et une clientèle fidèle.
Et alors, du coup, tu arrives à mêler les deux, ces deux métiers totalement différents, deux sujets totalement différents. Alors, comment tu fais pour passer de l'un à l'autre ?
Oui, alors c'est vrai. Bon, l'avantage dans mon métier de journaliste animatrice, puisque je suis en freelance, hein, je suis auto-entrepreneur, c'est qu'il y a quand même des périodes finalement où j'ai du temps. Et ce temps, bah, je le consacre à la marque, que ce soit dans la communication avec les clientes, la production de nos produits, de nos modèles. On a la chance de tout faire fabriquer en France. Ça fait partie de nos fiertés. Donc on a deux couturières, une couturière en région parisienne et une couturière du côté de Troyes. Donc c'est aussi des déplacements, un suivi. Et puis bien sûr, tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, avec une partie de direction artistique sur les shootings, les choses comme ça. Donc il y a vraiment un travail que je fais avec ma mère, hein, je ne vais pas l'oublier dans l'histoire, c'est-à-dire qu'elle m'aide beaucoup sur la partie logistique et on est toutes les deux à trouver des idées aussi, puisque comme nous ne sommes pas modélistes et stylistes comme mon père l'était, il faut un peu qu'on se creuse les méninges pour pouvoir trouver des nouvelles idées, de nouveaux modèles. Mais on est aidé, heureusement, par donc, ces couturières, ces brodeuses qui sont avec nous.
Et puis c'est intéressant parce que peut-être justement, c'est un œil neuf aussi, ou quelque part, quand tu n'es pas du métier, ça te permet aussi peut-être de voir les choses différemment, d'approcher un autre angle.
Oui, là où au début, quand j'étais avec mon père, je m'occupais principalement de la partie administrative. Hein, c'est moi qui lui faisais toutes les factures, les choses comme ça, la paperasse, et puis aussi le relationnel en anglais, puisque moi j'ai la chance de parler couramment l'anglais et lui ne parlait pas anglais, donc c'est vrai que sur nos déplacements à l'étranger je l'accompagnais. En fait, ce rôle-là, il a évolué forcément avec les années, puisque j'étais en mesure de lui proposer des choses, de aussi avec l'essor des réseaux sociaux, où j'étais quand même assez... j'avais beaucoup d'attention sur ce qui se faisait dans les défilés, les marques, la concurrence aussi accrue des marques de prêt-à-porter avec les réseaux sociaux, a fait que je donnais des idées, j'essayais d'inspirer mon père avec tout ce qui se faisait et les tendances. Mais je me rendais compte qu'en fait, comme lui, il avait une expérience de... Il a commencé très très tôt, il a appris le métier tout seul. Il a très vite compris que la mode, c'était finalement des cycles qui se répétaient.
Oui.
Et il avait, avant même qu'on puisse voir les tendances printemps-été ou automne-hiver, il savait déjà en fait. C'est ça qui m'impressionnait chez lui, c'est qu'il avait vraiment un esprit très, très ouvert sur ce qui se faisait, sans même... attendre que les marques proposent des nouveaux modèles.
Quelque chose d'évident, en fait.
Oui, c'était très évident pour lui. Ça m'impressionnait toujours, d'ailleurs. C'était, par exemple, je donne un exemple tout bête, mais c'était sur les couleurs. Et il sentait lui-même que, je ne sais pas, le turquoise allait être la couleur phare de l'été, ou au contraire, les volants sur des robes. Enfin, voilà, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup de l'écouter. Il avait toujours ce plaisir aussi de feuilleter les magazines. Et moi, je lui apportais aussi ce que les réseaux sociaux et le digital développaient à cette époque, quoi.
Et pour ça, du coup, tu es obligée de développer une stratégie de marque hyper, hyper pensée ou hyper forte pour te différencier des autres marques existantes.
Oui, c'est ça. Et comme... Bon, alors, c'était le petit inconvénient, c'est qu'en fait, mon père, dans sa manière de travailler, comme il travaillait tout seul et qu'il a... pas vraiment eu d'équipe autour de lui, justement par rapport à toutes ces nouveautés digitales, et que moi, donc on en parlera, mais j'avais aussi mon envie de devenir animatrice, et donc les études supérieures, les stages, etc. On était un peu en retard par rapport à toutes ces autres marques-là. Il a eu son moment de gloire fin des années 90 jusqu'au début des années 2000-2010. Et après, forcément, on était en déclin parce qu'on n'a pas su suivre justement cette vague qui déferlait sur le monde de la mode avec le digital et les réseaux sociaux. Et donc, il a fallu maintenir, comme tu disais, cette stratégie de marque avec le côté plus business, distribution dans les pays, dans les boutiques multimarques, puisqu'on n'avait pas de boutique en nom propre. On vend dans des multimarques. Et donc, il avait quand même un agent et un showroom en Italie, puisque l'Italie, comme on est dans la dentelle, fabrique des vêtements en dentelle, c'est une cible, en tout cas, très, très porteuse en clientèle.
Je trouve que le nom, en plus, fait vraiment ça, quoi.
C'est un nom italien. C'est vrai qu'on a des origines très lointaines du nord de l'Italie. Et forcément, il y a...
Ça fait vraiment nom de marque, tu vois. Tu aurais voulu inventer un nom de marque, ça fait vraiment marque de prêt-à-porter. C'était fait pour ça.
Oui, exactement. Exactement.
Et je me disais, du coup, est-ce que ce nouveau challenge, ça te permet aussi de voir autrement ton métier d'animatrice, parce qu'en fait souvent nous on nous dit quand on organise des événements que finalement on organise des fêtes et que c'est quelque chose d'un petit peu futile ou de non essentiel. Nous on est persuadés évidemment du contraire, et que sur une communication globale pour les entreprises, l'événement c'est une vraie communication, communication importante pour l'interne, les salariés, etc., importante pour l'externe, les clients, les partenaires et tout, et justement sur la stratégie de marque. Alors est-ce que du coup, je sais pas comment tu ressens toi le fait de vivre ça sur la gestion d'une entreprise et la difficulté de se différencier et de pouvoir se positionner, est-ce que tu apportes finalement dans le fond à des entreprises pour qui tu animes des congrès, des conférences, etc.?
Alors, pour répondre à ta question, Peut-être en deux points déjà. Moi, mon métier d'animatrice d'événements d'entreprise, il est très intéressant puisque, comme je le disais tout à l'heure en introduction, je travaille donc pour différentes boîtes et donc des secteurs variés. Et je suis en contact direct avec les directeurs de communication, ceux qui sont censés voilà apporter, mettre en avant la marque. On parle souvent aussi de la marque employeur aujourd'hui. Ce sont des choses très importantes. Donc, je vais être beaucoup inspirée par ces entreprises, que ce soit parce qu'aujourd'hui je travaille à la fois dans le secteur bancaire, l'automobile, l'aérospatial, donc c'est très très varié, mais il y a toujours des choses que je retiens, que ce soit sur la manière de communiquer, sur aussi l'image de marque, vraiment les chartes graphiques, la manière dont tout doit être cohérent, ouais. Coordonné, enfin c'est ça qui m'intéresse aussi, de voir comment les marques aujourd'hui se réinventent aussi, et on l'a vu avec le Covid, il y a eu aussi une manière de pouvoir s'exprimer différemment par rapport aux collaborateurs, puisque moi je fais des événements en interne, donc c'est important aussi de voir comment ça se passe de ce côté-là. Après, est-ce que j'ai l'impression d'apporter quelque chose aux entreprises ? Y a un côté qui revient souvent, et c'est aussi ce pourquoi vous m'avez, je pense, invité aujourd'hui. C'est cette double casquette, donc effectivement, à la fois journaliste, à la fois chef d'entreprise d'une marque de prêt-à-porter. Les gens apprécient parce que très souvent, lors des événements, on va donc, les clients vont donc délivrer les nouvelles stratégies aux collaborateurs, mais ils vont aussi inviter des chefs d'entreprise, leurs clients, qui vont venir parler de leur expérience. Et moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de parler de mon entreprise, c'est-à-dire que les clients, donc je te donne un exemple, je travaille pour AXA, donc on est dans le monde de l'assurance, mais pour autant, ils aiment mettre en avant aussi la personne qui va monter sur scène, donc l'animatrice, et la dernière fois, ils m'ont dit, mais ce serait bien que tu nous parles de cette casquette de chef d'entreprise que tu as en parallèle de ton activité de journaliste, parce que c'est inspirant, ça m'a beaucoup flattée d'ailleurs, et ça m'a permis aussi de parler de cet autre quotidien, des difficultés qu'on peut rencontrer, et de maintenir une proximité avec mon public. Et je pense, pour terminer, par rapport à ta question, c'est la proximité qui me plaît. Moi, ce que j'ai toujours aimé dans mon métier de journaliste et mon métier aussi dans le prêt-à-porter, c'est cette proximité avec les clients, c'est cette proximité avec mon public. Et conserver ça, faire en sorte que les gens sont à l'aise, faire en sorte de créer une atmosphère de décontractée et qui passe un bon moment. Donc, quand c'est dans les événements que le public passe un bon moment, qui rentre chez eux en se disant, ben voilà, non seulement j'ai pris les messages importants de mon CEO, de mon PDG, mais en même temps j'ai passé un bon moment parce que il y avait une bonne ambiance, et donc en parallèle faire en sorte que mes clientes qui achètent mes produits en dentelle soient du début à la fin, de la commande jusqu'à la réception de la commande, accompagnées, qui a un suivi, et ça c'est possible uniquement parce qu'on est une entreprise familiale et qu'on a à cœur de maintenir ça. Alors c'est vrai que voilà, comme je te disais, on n'a pas d'équipe, on n'est pas non plus nombreux, et ce serait aussi un atout, c'est aussi ce que je souhaite développer, on en parlera plus tard, mais au moins on a ce contact privilégié et les clientes sont ravies de ça.
Oui, puis finalement, ça permet la rencontre, c'est-à-dire que de parler à des gens d'AXA, de ton aventure dans le prêt-à-porter, quelque part, eux, ça leur permet aussi de faire un peu un pas de côté et de regarder différemment l'entrepreneuriat, qui sont finalement les entreprises, c'est leurs clients aussi, et puis d'essayer de s'ouvrir un petit peu l'esprit à d'autres façons de travailler, d'autres façons de voir la vie, etc. Et c'est aussi ce qu'on cherche dans l'événementiel, de faire rencontrer des gens qui peut-être ne se seraient pas rencontrés sans cet événement et qui peuvent ensemble faire des choses nouvelles, se motiver, s'inspirer.
Et tu le disais tout à l'heure, c'est quand même assez intrigant, parce que quand je me présente, voilà, j'ai ces deux activités-là, on se dit, voilà, c'est un peu bizarre, mais en même temps, ça intrigue les gens, donc ils viennent aussi me parler après mes interventions sur scène. Ils sont intéressés, ils sont étonnés, ils veulent en savoir plus. Moi, de temps en temps, quand je travaille pour... parfois, il m'arrive de travailler pour des entreprises dans le cosmétique ou des secteurs qui vont un peu plus se rapprocher de la mode. Là, c'est aussi... en fait, c'est intéressant pour moi, parce que je peux échanger les contacts.
Bien sûr, bah
c'est
sûr.
Et tu vois aussi sur des remises de prix, par exemple, où là, on fait, c'est une animation très décontractée, avec des événements souvent en soirée, dans des très beaux lieux. Et ben moi, je me prive pas de m'habiller avec
sûr.
Ma marque,
mais
tu
ouais,
vois.
Évidemment.
Et en fait, les gens, d'une année sur l'autre, notamment, je travaille avec une société chaque année au mois de juin, une très belle cérémonie de remise de prix au pavillon d'Armenonville. Et en fait, les gens sont habitués parce que chaque année, je m'habille dans une tenue différente, mais toujours de ma marque. Et c'est rigolo parce qu'à chaque fois, j'en discute et ça me permet de créer aussi du lien avec les gens.
Et puis ça montre aussi qu'on est tous multiples,
oui.
Avec plusieurs choses qui nous passionnent dans la vie, plusieurs façons, plusieurs loisirs, ouais. Plusieurs boulots, plusieurs... Et ce qui fait que les gens, ça doit leur parler aussi.
Bien sûr,
quand
exactement.
Ils te voient en fait, sur scène, à la fois animatrice et finalement patronne d'une boîte de prêt-à-porter, et ben peut-être que eux se disent « Ah mais ouais, mais moi pourquoi je m'interdis finalement de passer plus de temps, je sais pas,
sûr,
à mon instrument de musique, enfin ouais. Voilà, quelle que soit leur passion, donc ça parle à tout le monde. »
Je pense que c'est une force aussi de pouvoir pas se dédoubler, mais en tout cas de pouvoir avoir un esprit sur deux choses différentes. Moi je sais que sans cette activité-là, aussi de reprendre le flambeau de la marque de mon père, j'aurais besoin de combler en fait ce temps libre.
Oui, c'est ça,
tu
de
vois.
Trouver quelque chose
voilà.
Qui t'inspire ou un truc. Alors c'est drôle, on avait un épisode de podcast qu'on a fait avec une sportive de haut niveau qui, en parallèle de ses entraînements, elle fait de la course et avocate, enfin fait des études pour devenir avocate. Et justement, je lui posais la question de dire mais comment tu fais pour faire à la fois tes entraînements hyper rigoureux, voilà, et puis en même temps ton métier d'avocate. Et elle disait mais heureusement que j'ai les deux. Parce que c'est tellement deux choses très exigeantes que quand tu as un échec d'un côté, ça te permet de te dire « Ok, je vais aller courir. »
Exactement.
Hein. Ou quand tu n'arrives pas à faire tes perfs en course, tu te dis « C'est pas grave, de toute façon, il faut que je révise mes partiels. » Enfin, voilà.
Exactement.
Donc elle disait qu'au contraire, d'avoir les deux, ça lui permettrait d'être finalement efficace sur les deux.
L'énergie que tu mets
Exactement.
Dans une activité va te donner envie de finalement de remplir aussi l'autre activité de cette passion, de cet optimisme. C'est très important parce que... aussi et d'autant plus que c'est donc la marque de mon père qui a été fondée en 1992,
oui.
Donc t'as pas
donc
envie
là,
de
en
la
plus
lâcher.
T'as une attache bien sûr
exactement
ouais, ouais, ouais.
C'est très personnel, c'est très il y a beaucoup de sensibilité aussi que je mets là-dedans
et
parce
puis
que
beaucoup de pression aussi sûrement parce que tu veux être à la hauteur forcément
ouais.
parce que t'as
ouais,
pas envie
sûr.
De te dire en fait j'ai foiré le truc et
exactement.
Bah ouais.
Ça c'est le côté
Encore
un
plus.
Peu
bah,
compliqué
oui,
au quotidien de gérer mais
ouais.
Mais ça n'empêche que c'est une vraie passion et je lâcherai rien ouais.
Bah, puis du coup, ça te permet de rencontrer effectivement des gens, puis de développer sur d'autres sujets. Et je
ouais.
trouve qu'aussi, c'est une attache différente.
Mm-hmm.
Parce que du coup, ils vont sentir que tu leur parles d'un truc un peu perso. Et
oui,
donc, ça crée aussi une autre relation.
Exactement.
C'est important.
C'est finalement, tout ça, c'est assez complémentaire, je trouve, ouais, dans ma vie.
Et alors, je lisais dans ce que tu avais fait que du coup, enfin, on a tous été impactés évidemment par le Covid et puisque ça nous a imposé de faire. Et donc, tu as bossé un peu sur le digital.
Oui.
Alors, est-ce que du coup, pour toi, c'est quelque chose de différent ? Comment t'as vécu ça ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé faire ? Est-ce que c'était compliqué ?
C'est vrai, je dois dire que finalement, quand le Covid est arrivé en France, malheureusement, à la mi-mars, les entreprises se sont très vite ont très vite rebondi. Elles ont tout de suite basculé vers le digital pour maintenir le contact quand même avec leurs collaborateurs. Et ça s'est traduit par, en effet, des lives qu'on a fait sur les réseaux sociaux, mais aussi des tournages en studio sur fond vert ou en plateau.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé que ça avait un avantage. Bon, certes, on est en digital, donc on n'a pas de public devant soi. On ne peut pas capter finalement les regards, on ne peut pas capter
oui,
l'ambiance.
Voir si ce que tu dis est compris,
voilà,
en tout cas bien perçu. Ouais.
On n'a pas forcément le retour instantané de son public. Mais d'un autre côté, pour des énormes boîtes comme par exemple Saint-Gobain, où on va faire une convention internationale et donc habituellement, on ne peut pas non plus rassembler tous les collaborateurs dans une salle. Ce n'est pas possible. Faire venir les gens du monde entier, c'est compliqué. Mais par contre, en digital, on peut le faire. C'est l'avantage de toutes ces boîtes qui ont pu être en effervescence et se développer pour mettre en place des plateformes d'interactivité avec le public, notamment voilà pour déployer des écrans avec des mosaïques. Moi, j'ai ce souvenir-là sur une convention Saint-Gobain à la Défense. Donc, on est dans la tour Saint-Gobain. On est en équipe restreinte
ouais.
quand même, mais on a tout d'un coup un écran qui s'allume avec des dizaines de petites
ouais.
cases avec les gens qui sont en Inde, au Mexique. Enfin voilà.
Ouais, c'est vrai que c'est super parce que
ça,
du coup,
l'avantage.
Tu peux échanger vraiment avec le monde entier. Quoi.
Tu peux transmettre tes messages, c'est-à-dire que tout le comité exécutif était présent pour communiquer des messages qu'il aurait fallu habituellement dupliquer à toutes les zones du monde. Et là, et puis ça a fait quand même, c'était une ambiance assez particulière, mais c'était tout aussi plaisant. Alors c'est vrai que c'est différent pour moi dans l'animation, il faut s'adapter. Mais il y avait quand même ce plaisir d'animation qui est d'une autre forme.
Après, c'est vrai que même pour nous, ça a changé un peu le métier de l'événementiel, mais finalement, en positif, en tout cas, nous, ça nous arrange, c'est des choses qu'on aime faire. Ouais. C'est que finalement, on a arrêté les grands événements un peu obligatoires de grandes messes où justement, il faut inviter tout le monde et avec un grand congrès, avec 3000 personnes, etc. Les gens font ça effectivement en digital ou avec des moyens beaucoup plus simples pour tout le monde parce qu'on le fait de chez soi, on le fait en télétravail, on le fait voilà. Mais par contre, on met du budget sur un événement plus cosy, par équipe ou avec, et aussi, mieux pensé, mieux ciblé, c'est-à-dire avec un objectif plus clair. Oui. Et donc, nous, ça nous permet de recevoir des demandes, alors on va dire de groupes d'une quarantaine, en général, c'est une moyenne de 40 personnes, et de travailler vraiment un séminaire où tu vas avoir des temps de travail hyper efficaces, mais aussi des temps conviviaux faciles à organiser, parce qu'à 40, tu peux vraiment faire des trucs hyper adaptés, hyper personnalisés, vraiment de qualité. Donc, finalement, ça, c'était le positif du digital, enfin, pour nous. C'est-à-dire que ça nous libère de tout un tas de contraintes,
tout à fait.
De comme obligatoire. C'est obligatoire, on le fait en digital, c'est bien, il faut le faire, etc. Et après, le convivial, on peut se permettre de le faire un peu plus...
Et puis ça s'est maintenu même après le Covid, voilà, encore aujourd'hui, il y a toujours, c'est ça aussi qui est bien. Maintenant, voilà, le seul souci quand on fait ce genre d'événement, c'est de vraiment être vraiment sur une qualité technique, en fait, hein, parce qu'il peut arriver qu'on ait des... Surtout quand on est connecté, je disais, avec le monde entier, parfois il y a des coupures, parfois... Oui. Et pour moi, en tant qu'animatrice, c'est aussi savoir meubler pendant ces moments-là.
C'est ça,
mais moi, je vais te dire, c'est les moments que je préfère parce que c'est là où le naturel forcément revient au galop. Donc on peut être un peu tendu parce qu'on sait qu'on a différentes séquences, un timing à respecter. Et dès qu'il y a finalement un petit problème technique, moi je vais un peu rigoler avec le public, je vais tenter de détendre l'atmosphère.
C'est là où on voit en plus ta valeur ajoutée, c'est là où les gens ils disent ça. L'animatrice elle sert à quelque chose quand même, parce que si elle n'était pas là...
Après heureusement que ça ne dure jamais longtemps parce que sinon là je ne saurais pas quoi faire, mais non c'est vrai, tu as raison, c'est aussi important et ça nous a ouvert les yeux sur une autre façon de communiquer, le digital je trouve, et aussi d'avoir des retours instantanés des impressions du public chez eux ou dans des salles, parce qu'il y a, je disais tout à l'heure, voilà, ces applications, c'est vachement à la mode. Moi, à chaque fois que je fais un événement, maintenant, c'est il y a une application dédiée, connectez-vous, on vous met le QR code, et comme ça, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez réagir, et on va prendre aussi le pouls de la salle, même si c'est en digital, tu vois. Ça s'est maintenu, c'est bien.
Et alors du coup, est-ce que tu as des entreprises avec lesquelles, je ne sais pas, tu as travaillé, tu as voulu faire une animation, etc. Et puis finalement, tu t'es dit, l'ambiance interne, c'est une catastrophe, je ne vais jamais arriver à les lier. Ou est-ce que parfois, tu étais face à des difficultés comme ça en interne des entreprises ?
Alors c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé. Je ne vais pas citer le nom
d'entreprise. Non, je ne te demande pas de citer des noms, mais comment tu te sors de ça ? Parce qu'en fait, ton rôle est hyper important, surtout dans
ces
cas-là.
Bien sûr. Alors je peux te dire que la pression est beaucoup plus importante que sur d'autres événements avec d'autres entreprises. Donc c'est un vrai challenge pour moi. C'est là où je me rends compte du défi que j'ai à chaque fois avec des entreprises différentes. Donc comment je gère ça ? C'est-à-dire que moi, je... veux faire en sorte que mon événement soit très bien calé en termes de script. Tu vois, moi, j'appelle ça, c'est mon script, c'est toute ma trame de questions, d'introduction, de transition, etc. Donc, quand je sens que dans l'entreprise, il y a des petits soucis de communication, qu'il y a une personne qui me dit ça et l'autre personne me dit le contraire, qu'ils ne sont pas d'accord et que tu commences un peu à avoir peur du résultat, je suis assez claire dès le début sur la manière dont moi, j'aime travailler. Et donc, s'il faut... faire plus de rendez-vous parce qu'on fait souvent des rendez-vous en visio pour préparer l'événement, j'hésite pas à demander à ce qu'il y ait des visios one to one, mais aussi
avec tout le monde. Comme ça, t'es sûr d'effectivement, tu les vois aussi interagir.
Voilà, parce que eux, ils aiment aussi le fait que l'animatrice, elle puisse donner son avis, demander comment est-ce que l'animatrice voit les choses en termes de format, de configuration aussi sur scène. C'est important pour.
Et puis tu leur donnes un recul peut-être aussi sur parce qu'ils voient peut-être pas eux-mêmes les difficultés, ou ils se rendent pas compte de.
Donc c'est vrai que c'est un petit challenge, mais au final, on arrive toujours à très bien, ça se passe toujours très bien, mais ça peut arriver, ouais, les petits moments comme ça, de stress.
Et alors, est-ce que, évidemment, comme on ne donne pas de nom de ce qui se passe mal, est-ce que tu as vraiment un super souvenir, c'est-à-dire une entreprise avec qui tu as fait une animation et ça reste pour toi un souvenir hyper émouvant ou...
Il y a eu un événement vraiment très, très émouvant. D'ailleurs, c'était la première fois que j'ai eu un peu les larmes aux yeux, je dois te dire. C'était l'année dernière, j'étais partie à Madrid, donc ça c'est aussi le bon côté,
ouais,
de parce que je bouge un peu partout et parfois pour
les collaborateurs. Si tu parles plusieurs langues, c'est vrai, oui, que tu t'es demandé.
Oui. Alors pour permettre aux collaborateurs de vivre une expérience assez inédite, parfois les entreprises, donc des grosses boîtes, délocalisent les conventions. Et donc là, on était avec Best Western à Madrid, dans un très bel hôtel, sur 2 jours. Et on avait la chance d'avoir, tu sais, des invités inspirants. Ça se fait beaucoup, voilà, des conférenciers qui sont des personnalités publiques et qui viennent partager leur expérience. Et comme on approchait des Jeux Olympiques, forcément, Best Western avait décidé d'inviter des athlètes, des champions olympiques. Donc on avait sur le plateau, sur la scène, on avait Arnaud Assoumani, qui est un champion d'athlétisme, mais côté paralympique. On avait Charlotte Bonnet, qui est championne de natation. Et puis, on avait un skipper, un navigateur, Romain Athanasio. Et en fait, ils ont partagé avec tous les 3 sur scène leur expérience, leur envie de se performer pour les Jeux Olympiques de 2024, puisqu'on était donc en 2023. Et à un moment donné, Arnaud Assoumani, en comparant sa pratique sportive avec aussi la natation et donc du côté de Charlotte Bonnet, il s'est remémoré Camille Muffa, qui est décédée malheureusement dans cet accident,
sûr,
vous vous souvenez d'hélicoptère lors du tournage d'une émission
télé, ouais,
voilà,
ouais, ouais.
Et avec beaucoup de philosophie, il a délivré des messages très émouvants. La salle, vraiment, j'ai vécu quelque chose de fou parce que la salle était...
t'as senti un peu le coton autour, en tout cas.
Il y avait une vibration particulière. Il s'est mis à pleurer. Il a eu beaucoup d'émotions. Charlotte Bonnet aussi. On était un peu... Et là aussi, il faut en tant qu'animatrice, il faut gérer ce genre de moment-là.
Sûr.
Bon, il se trouve que j'ai été aidée par le public qui était tellement ému. Le public s'est mis à applaudir. Je crois même qu'il y a eu une standing ovation.
Donc ça a permis de sortir peut-être de cette torpeur un peu.
Oui, exactement. Et on a été... et en fait, il se trouve que la coach, enfin pas la coach, mais la manager en tout cas de Charlotte Bonnet était présente. Et c'est elle qui, à l'époque, était aussi la manager de Camille Muffa.
Ah, okay.
C'est elle même qui a dû annoncer aux parents de Camille Muffa le décès de leur fille. Et je l'ai rencontrée après au cocktail apéritif. Et elle était encore toute chamboulée.
Oui,
bien sûr. Il y avait tous les souvenirs qui revenaient.
Il y avait combien de personnes, du coup, dans le public ?
Il y avait 500 personnes.
Ah, ouais.
Entre 400 et 500 personnes.
500 personnes qui se lèvent, applaudissent,
etc. C'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Et après, dans un autre style, c'était un très, très bon souvenir. Parce qu'il faut savoir que moi, plus il y a du monde dans le public, plus j'adore.
Plus facile parce que tu vois moins les gens.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
Tu ne les vois pas. Alors que là, récemment, je travaille sur d'autres événements en petit comité où on a 70 personnes. Moi, je sens que j'ai un peu plus de trac avant de monter sur scène parce que là, j'ai vraiment les gens devant moi. En plus, c'est des salles qui sont plus petites, mais c'est intéressant. Et donc, j'ai eu la chance d'animer une convention pour Renault, pour le groupe Renault. Donc, il y avait à la fois Dacia qui présentait la stratégie, Alpine, Renault et l'entreprise de service de Renault qui est Mobilize.
Okay.
Et là, on était dans le centre des congrès de Lyon et on avait 2500 personnes. Et en fait, on a fait 2 dates puisqu'il y avait 5000 personnes qui devaient être présentes dans le public. Donc, on a fait 2500 la première journée et 2500 la deuxième journée avec des moyens colossaux de décor, de chorégraphie. Ouais. Il y avait des danseurs présents. Donc, il y avait une chorégraphe en répétition. C'était incroyable. Surtout qu'on est arrivé de derrière la scène, forcément. Même en répétition, on a assisté à toutes les répétitions qui étaient grandioses et j'étais en co-animation avec François-Xavier Canova qui est mon agent en parallèle, qui est mon agent aussi dans mon métier d'animatrice et avec qui je m'entends très très bien et ça a été un souvenir pour nous extra parce que
t'es aussi au milieu de prestataire artistique,
non seulement t'es animateur sur l'événement mais t'es aussi spectateur.
Oui, tu vois ce qui se passe. Ouais.
Tu vois, ça, c'est génial. Ouais, c'est un très bon souvenir. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que c'était ma vocation. Parce que moi, être sur scène, j'ai toujours, depuis toute petite, voulu un peu amuser la galerie. J'ai jamais été timide. J'ai toujours aimé un micro. Tu vois, je tiens un micro là, actuellement. J'adore ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est mon objet préféré. Tu vois, j'adore. Et en fait, quand je suis arrivée au Centre des Congrès de Lyon, j'ai vu les moyens qui avaient été mis pour cet événement. Je me suis dit, mais c'est même les caisses, comment on appelle les grosses caisses, tu sais, noires, là, de tournée. Ouais. Voilà. Et bien, ça, j'adore, en fait. Et je me dis que dans une autre vie, j'aurais aimé être même chanteuse ou danseuse ou ce que
mais
tu veux,
sûr.
Mais être sur scène, j'adore.
Mais surtout que les coulisses, c'est passionnant. Nous, on vit ça aussi quand on prend des prestats artistiques, etc. Et qu'on voit derrière tout ce qui se passe. La fourmilière des techniciens qui sont là, justement, qui amènent les fly caisses, les machins. Mais c'est incroyable. Ouais. Et tout ce qui est mis en place pour l'heure de spectacle qui
c'est
va être
ça.
Derrière, c'est.
Exactement.
Ouais, c'est vraiment...
Quand tu vois le résultat, tu te dis, mais il y a eu un boulot fou. Mais.
Mais comment tu redescends après ça? Parce que c'est un vrai sujet pour nous. Nous, souvent, on fait des shows comme ça où tu travailles sur... Par exemple, pendant un an, tu fais le scénario d'un événement avec des prestats artistiques, etc. Mmh. Le jour arrive, nous, on est en stress toute la journée et tu peux pas tellement profiter du truc parce qu'il faut que tout soit bien calé, les artistes arrivent, que la presta se passe nickel bien, qu'il n'y ait pas de problème technique, etc. Donc, tu es un peu derrière. Et en fait, au moment où tout se déroule, tu es face au truc, le show qui est en place et tu vois les gens le vivre et comment ils regardent. Mais pour nous, c'est tellement, tu vois, d'émotion et un truc fort que derrière, quand l'événement est terminé, tu te dis OK, et on fait quoi maintenant?
C'est une très bonne question parce que c'est ce que j'analyse beaucoup aussi au quotidien quand je fais des événements.
Simple.
Il y a une telle adrénaline qui se met en place qu'on ressent pendant les événements que là, après, quand tu as terminé ton événement, tu as tout qui redescend.
Ouais, c'est ça.
Tu es très content de ce que tu as fait. Quand ça se passe bien, bien sûr. Et quelques jours après, hein, il faut se remettre pendant quelques jours. Et alors, finalement, bon, parfois, tu sais, on se dit, on anime pendant, allez, 1 heure, 2 heures de convention, ça va, c'est pas non plus énorme. Bon, il y a du travail en amont. Mais en fait, après, t'as tellement stressé, t'as tellement voulu que ça se passe bien, t'as tellement eu cette adrénaline que t'es lessivé.
Ah bah,
enfin, moi, je sais, j'ai des moments...
Puis t'as forcément besoin d'un temps, parce que derrière, il faut repartir sur une autre convention, sur une autre prestation que tu vas faire, sauf qu'en fait, t'es pas prête à repartir le lendemain.
Et puis, comme je te disais, moi, je travaille sur des formats variés, donc en fait, tu vas passer d'une convention à un salon. Donc,
ouais,
un salon, tu vas être mobilisé sur 5 jours avec du passage constant sur un stand ou quoi, du bruit. Tout ça aussi, ça va contribuer à une fatigue psychologique. Et à la fin, t'es lessivé, comme je disais. Et alors, je peux peut-être te partager deux expériences, deux anecdotes où là, il y a une gestion aussi de ce stress ou de cette fatigue. C'est qu'il y a quelques années, sur le mois de septembre est très souvent chargé, hein, parce que les entreprises rentrent de l'été. Donc, il y a beaucoup d'événements qui se font. Alors, j'avais une énorme convention pour Saint-Gobain qui se déroulait finalement sur 4 jours avec des répétitions, bien sûr, et 2 jours complets de convention. Et mon agent m'avait dit que j'avais aussi une proposition pour travailler pour Renault Trucks le samedi et le dimanche sur une animation complètement différente avec, c'était sur les 24 heures du Mans camion. J'étais même pas au courant qu'il y avait des camions qui faisaient la course des 24 heures. Et il m'a dit, bon, est-ce que vraiment tu veux le faire parce que tu vas être très fatiguée de tes 4 jours de Saint-Gobain, même 5 jours je crois. Est-ce que tu veux le faire? Et j'ai dit, écoute, oui, ça va me plaire parce qu'au moins je vais pouvoir décompresser. Ça va être une animation vraiment avec un public un peu plus, on va dire, populaire, mais... tout aussi agréable et qui va casser le côté très sérieux.
Ça va faire une transition.
Et je l'ai fait. Alors certes, je suis rentrée le dimanche soir, j'étais épuisée, mais en fait, j'étais super contente de ma semaine, tu vois. Et dans un autre exemple, où là, je pense que j'ai mis une semaine à m'en remettre tellement j'étais dans un moment de telle tension. Écoute, j'ai été contactée par Ariane Espace, avec qui j'avais déjà travaillé... quelques mois auparavant, sur un séminaire. Ils m'ont rappelé, en fait, au mois d'octobre, last minute, leur animatrice habituelle pour le lancement, enfin, le lancement de fusée, en fait. Tu sais, tu commentes le lancement d'une fusée. Donc, eux, ils avaient leur animatrice, mais elle n'était pas dispo ce jour-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, les lancements de fusées, c'est en fonction de la météo, bien sûr. Donc, parfois, ça peut être annulé à la dernière minute. Et pendant tout un week-end, j'ai eu ce stress de, d'être appelée ou de pas être appelée pour faire ce truc que j'avais jamais fait de ma vie. Alors le texte était déjà prévu, mais bon, il y a quand même les aléas du direct.
Enfin, bah ouais, c'est sûr.
C'est-à-dire que la fusée, elle peut décoller et puis il va y avoir un souci. Tout en anglais, sur un vocabulaire que je maîtrise pas forcément non plus, parce que voilà, très technique. Ouais. Alors, pas toute seule à l'animation, mais avec un expert d'Ariane Espace. Et donc, finalement, le vendredi, ça se passe la nuit, hein, puisque tu es en duplex avec Kourou. Donc, forcément, tu travailles de 2h à 5h du matin. Donc, il m'avait dit, ça peut être dans la nuit du vendredi à samedi, ça peut être la nuit du samedi à dimanche ou du dimanche au lundi. Donc, moi, tu imagines, le vendredi, je suis chez moi, je cale rien. Je suis chez moi, je reste chez moi. Donc, finalement, on me dit vers 21h, non, vers 18h quand même. On me dit, non, ce ne sera pas là, ce ne sera pas cette nuit. Donc, le lendemain, rebelote, très stressée. Non, ce ne sera pas cette nuit. Et le dimanche, bon, je me dis, c'est bon, ça ne va pas se faire, ça sera peut-être le mois prochain, tu vois. Je suis tranquillement chez moi et à 18h, là, mon agent, il m'appelle, c'est ce soir. À 18h, il faut que tu sois à 20h dans les Yvelines. En fait, ça se passe dans un studio. À côté du siège d'Airbus, un petit studio où tu as finalement un écran de retour avec ce qui se passe à Kourou, et tu as un casque, un micro, et c'est parti quoi. Donc en fait, de 20h à 3h du matin, on est en répétition et on répète les 20 premières minutes du lancement, puisque les 20 premières minutes sont consacrées à expliquer ce qui va se passer, des reportages, des lancements.
Et ça bouge pas quoi qu'il se passe.
Ça bouge pas. Ouais. Donc ça, je l'ai maîtrisé au fur et à mesure. Ils étaient contents parce qu'ils étaient aussi stressés que moi. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais fait ça et eux, ils m'avaient jamais rencontré.
Bah ouais.
Donc ils voulaient absolument que, tu vois. Bon, ils ont été rassurés au bout de quelques heures de répétition. Et là, après, on lance le direct. Donc les 20 premières minutes assez tranquilles. Et puis ensuite, lancement de fusée. Et ça, c'est absolument exceptionnel de voir ça en direct. Donc certes, t'es pas à Kourou, mais tu vois sur l'écran géant.
Mais non, puis tu vis le truc. Donc
et puis t'es avec le centre de contrôle.
Ouais.
Et tu vis ça, tu te dis, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. On m'avait prévenu, voilà, red flag, attention, s'il y a les rouges. C'était les rouges et les verts. Donc les verts, c'est donc bien sûr quand ça se passe bien. Et les rouges, c'est voilà, ce qu'il faut dire en cas d'annulation de lancement. La fusée, malheureusement, imaginons, ça explose en vol ou quoi. Parce que là, il y avait personne dans la fusée. Des satellites qui devaient être posés au-dessus de Taïwan et de la Thaïlande, je crois. Donc, c'était quand même un enjeu important. Et tout s'est bien passé. Et alors là, tu termines à 5h du matin, tu rentres chez toi. Comment te dire ? Moi, j'ai pas dormi de la nuit. Hein. J'arrivais pas à dormir. Et j'ai mis 3-4 jours à m'en remettre. Parce que j'étais tellement dans un état de stress et en même temps très contente d'avoir
stressé
réussi.
Deux jours avant parce que t'avais le nom, allez go.
Mais ça restera gravé. Hein. C'était incroyable. C'est génial, ouais.
Et comment tu te ressources alors ? Comment tu fais quoi quand t'es en vacances, tu fais quoi?
Moi, j'adore voyager, donc j'aime aussi beaucoup me déconnecter. J'essaye vraiment de partir, si je peux, un peu loin. Là, tu vois, j'envisage de partir sur une île perdue des Cyclades pour décompresser pendant 10 jours. Là, j'en ai vraiment besoin. Après, moi, au quotidien, ça va être des séances de sport, un peu de running, tu vois, des choses comme ça. Et puis, j'adore, je suis très culture, musée, expo. Voilà, avec mes proches, mes amis, ça tourne autour de ça. Mais c'est vrai que quand on fait ce métier-là, il faut s'imposer aussi. Parce qu'en fait, on a tellement envie de bosser, on aime tellement son métier qu'on va pas forcément... on va même plus réfléchir et se dire, attends, parce que là, ça fait 6 mois que tu bosses non-stop, peut-être qu'il faudrait t'accorder... On n'y pense plus. Donc, il faut avoir aussi ce truc de se dire... Je m'impose, voilà, je vais prendre quelques jours, même un week-end, mais au moins décompresser. C'est pas toujours facile, mais bon, après, moi, ça fait 7-8 ans que je fais ce métier. Donc, il y a une petite routine qui s'est installée. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a des périodes où il y a moins de boulot. Ouais. Tu vois, tout début d'année, ça va être plus calme.
Aussi,
donc, ça aussi, c'est l'avantage, oui.
Et alors, est-ce que tu as des artistes ou des personnes qui t'inspirent ?
Alors, moi, je pense que je suis née... à la mauvaise époque, c'est-à-dire que j'ai des goûts de vieux, hein, je le dis.
Mais comme nous, on est vieux, ça passe.
Ah oui, ça passe, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que vraiment, par qui j'ai été inspirée, forcément, mon métier d'animatrice, j'adore Oprah Winfrey et en France, Michel Drucker.
Évidemment. Ah bah oui, tu dis goût de vieux, oui là, Michel Drucker.
Non, mais c'est-à-dire que j'ai baigné dans la télévision.
Il a 158 ans, je crois.
Il ne veut pas s'arrêter, Michel. Hein. En fait, moi, j'ai baigné dans la télévision. Je regardais beaucoup la télévision avec mes parents. Et puis même, en fait, comme je regardais beaucoup la télévision, parfois, il y avait des extraits d'émissions qui étaient à la télé avant que je sois née. Donc, j'ai pas mal de culture là-dessus.
Et puis, mec, finalement, les grands animateurs, c'est cette époque-là, quoi. Ouais. C'est vrai que Michel Drucker, il incarne quand même avec des grandes émissions de divers divertissement des grands shows qu'on voit plus tellement.
Exactement.
Enfin, c'est différent. Où il y a Nikos aujourd'hui.
Oui, c'est ça. C'était le samedi soir, en effet, émissions de divertissement, de variété. J'aimais beaucoup. Et puis, ça me faisait rêver. Ça, la télévision, ça m'a toujours fait rêver. J'ai eu la chance d'animer un petit peu sur une petite chaîne. C'est comme ça que j'ai débuté. J'ai tout appris là-bas. Et puis, en parallèle, j'avais aussi une activité d'assistante, de rédaction, d'édito. Donc, j'étais derrière la caméra sur les plateaux télé. J'ai eu la chance de rencontrer Michel Drucker quand même. Ça, je suis contente c'était mon idole, quoi. C'est mon idole. Et j'ai un peu discuté avec lui lors de répétition d'une émission qu'il allait animer. Et il était sur sa 54e année de carrière.
Non mais incroyable.
Il m'impressionne et voilà.
Il fait l'unanimité, c'est quand même super rare.
C'est vrai
que le mec, en fait, quel que soit l'artiste ou la personne qui est placée sur ses plateaux, il est toujours génial, Michel.
Exactement.
C'est fou. Hein.
Et lui, il a mis en avant, quand j'ai discuté avec lui, l'hygiène de vie, voilà. Si tu veux réussir dans ce métier, il faut que tu sois vraiment très rigoureuse avec ton hygiène de vie, pas d'alcool, pas de cigarette, pas de drogue, effectivement, bien sûr. Bon, voilà.
Et puis il fait du sport aussi, il faisait vachement de vélo, je crois.
Bon, c'est quelqu'un qui est très... Il est connu aussi pour son côté hypochondriaque. Donc on comprend aussi que l'hygiène de vie, ça doit être très important pour lui.
Il ne veut surtout pas être malade.
Mais c'était un plaisir de travailler sur ces courtes périodes à ses côtés. Voilà, donc après, j'ai toujours eu beaucoup de passion pour les émissions américaines, les talk shows.
Ouais,
et
donc
je continue
Oprah,
à regarder
forcément.
À Oprah Winfrey. Donc forcément. Ça, c'était vraiment quand j'étais ado, parce que voilà, j'aimais bien regarder les interviews. J'ai toujours trouvé très brillante. J'ai lu aussi des livres qu'elle avait écrits. Et puis après, tous les talk shows américains, les cérémonies de remise de prix américaines qui sont absolument incroyables, les monologues des animateurs, etc. J'adore. Je ne manque pas, mais ça, c'est depuis que je suis ado, je ne manque pas ce genre d'émissions et de... C'est des prises de parole. Et là, on voit un peu l'excellence dans le divertissement des Américains, en fait. On n'est pas forcément capable de faire en France. Il y a des émissions très, très bonnes en France, mais en fait, on n'a pas forcément cet ADN qu'eux, ils ont. C'est eux qui ont inventé le divertissement, pour moi. L'entertainment, comme on dit, c'est eux qui l'ont inventé. Et nous, on n'a pas forcément ça. On essaye de faire comme eux. Il y a des talk shows qui se sont faits en France.
Oui, on s'inspire.
Bien sûr. Et c'est bien de s'inspirer aussi pour proposer d'autres choses à la télévision française. Mais on n'arrivera jamais à la hauteur des Américains, je crois.
C'est drôle parce que la façon dont tu vois, enfin, où tu vas décrire les talk shows, tu vois, ça me fait penser un peu à Cédric quand il va à un concert ou sur un... Non, mais tu vas voir pourquoi je dis ça. À un concert ou dans un spectacle. Et en fait, quand il va me faire le débrief du truc, il va dire, voilà, la lumière était comme ça, la scène était positionnée comme ça, trop brillant d'avoir mis les instruments là. Et en fait, sur la performance en soi de l'artiste, bien sûr, il va pouvoir me décrire, mais c'est pas ça qu'il va dire d'abord.
Ah, oui.
Et toi, finalement, quand tu parles d'une remise de prix, tu vas pas me dire l'acteur qui a eu l'Oscar de machin, ou quoi, tu vas me parler de l'animation, qui fait les transitions, qui fait les monologues, etc. Et donc, c'est rigolo. On voit tout de suite, tu vois, de ce qui t'intéresse dans ce que tu regardes, quoi. C'est assez drôle.
Non, ils sont très, très forts.
Pas de côté, quoi.
Après, voilà, bon, moi, dans mon métier d'animation d'événements, je suis pas amenée à faire de l'animation non plus comme ce que peuvent faire.
Bien sûr, tu sais pas, peut-être que. T'as jamais fait un TED, par exemple ? Un TEDx animé, tu vois
Non, j'ai jamais fait ça.
Parce que tu vois, ça fait un peu à l'américaine.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'est là-dessus. Et là-dessus, c'est vrai que c'est un format très intéressant. J'en regarde d'ailleurs de temps en temps sur YouTube. Je trouve que c'est une vraie performance.
Parce que là, je trouve que justement, comme c'est un format qui vient des États-Unis, tu vois, t'aurais peut-être liberté à te dire que t'animes
à
la façon d'Oprah, quoi, sur un truc.
Mais parfois, on me demande, là, notamment récemment, on me demande, et ça m'a étonnée d'ailleurs au début, de faire des introductions de 8 minutes, de 7 à 8 minutes. Je veux dire, moi, quand je monte sur scène et que je travaille sur une convention, bon, ça va durer 2-3 minutes, je vais accueillir les invités, je vais leur expliquer ce qui va se passer, les thèmes de la journée, de la matinée, et puis ensuite, je vais tout de suite introduire notre premier invité. Et là, vraiment, il y avait une envie de la part du client que je prenne la parole un peu plus longtemps pour décrire et apporter aussi même un peu des anecdotes personnelles pour mettre... Voilà, placer déjà un...
Et finalement, un pour mood, incarner.
Voilà, pour incarner. Donc ça dépend. Et puis c'est intéressant aussi de voir comment les gens imaginent leur événement, donc un peu aussi comme vous dans votre activité, trouver des choses un peu plus originales à proposer au public. C'est très intéressant.
Ouais, c'est toujours d'arriver à trouver le juste milieu entre répondre au brief du client, ce qui est important parce qu'il faut comprendre ce qu'il a envie montrer et ce qu'il porte lui. Il ne faut pas non plus déroger à ça. Et en même temps, pouvoir aller plus loin et dire, mais est-ce que vous avez pensé que par rapport à ce que vous voulez montrer, vous voulez dire, vous pourriez aussi le faire de cette façon-là? Et ouais, c'est un positionnement qui n'est pas toujours facile à trouver parce qu'il ne faut pas se mettre à sa place ou être hors sujet parce que t'es trop disruptif et en fait, le gars ne va pas comprendre ou en tout cas, ça ne va pas lui parler. Mais à la fois, essayer de l'amener, de voir différemment, de voir plus haut, de faire le pas de côté qui est nécessaire pour sa boîte. Donc, c'est toujours un...
Parce que souvent, ils sont assez formatés sur la manière dont ils veulent. Parce qu'ils veulent faire un peu comme ce qui se fait généralement.
Et puis, ils sont pas, c'est pas leur métier, com, l'événementiel. Et eux, ils sont sur leur activité et donc sur ce qu'ils voient tous les jours, leur quotidien. Et quelque part, je pense, quand ils prennent une agence, en tout cas, je me dis que notre valeur ajoutée, elle n'est pas d'agencer des prestataires les uns avec les autres. L'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on va vous apporter en stratégie événementielle et qu'est-ce qu'on va vous apporter justement sur ce que vous voulez dire, sur la façon dont vous allez voir votre activité et peut-être sortir justement de votre course au quotidien et voilà, prendre un peu de recul. Mais voilà, il faut vraiment le faire avec tact parce qu'il ne faut pas non plus aller trop loin.
C'est un vrai équilibre à trouver.
Et alors, quels sont tes projets, Léonore? Comment tu vois ton demain?
Comment je vois mon avenir? Très bonne question. Écoute, déjà, du côté de la marque de vêtements, c'est vrai qu'il y a du boulot parce que la marque était un petit peu en déclin avec, comme je disais tout à l'heure, ce ralentissement sur les réseaux sociaux, le Covid aussi qui a quand même pas mal impacté. Donc l'idée, ce serait de reconquérir des clients, des boutiques multimarques avec lesquelles on travaillait dans le passé. Si possible... monter une équipe, voilà ce que mon père n'a pas réussi à faire. J'aimerais pouvoir l'accomplir. Ça va peut-être prendre plusieurs années, mais en tout cas, c'est un objectif.
Oui, parce que vous trouvez les bonnes personnes.
Voilà, exactement. Et puis, dans mon activité d'animatrice, il y a quand même des secteurs que je n'ai pas encore eu la chance d'approcher, des secteurs qui vont un peu plus... m'attirer comme la mode, les cosmétiques, le tourisme, la gastronomie. C'est aussi des secteurs qui font des événements. Et puis j'ai toujours un peu ce rêve, on en parlait tout à l'heure, de la télévision. J'aimerais, si un jour j'ai l'occasion le rêve ultime, ce serait d'avoir une émission, ça c'est sûr.
Ah ouais, mais en tout cas, Michel Drucker.
Un binôme, co-animation avec Michel Drucker.
Il faut se dépêcher.
C'est ce que j'allais dire. Peut-être que je me dépêche, par contre. Non, mais voilà, en tout cas, de remettre un pied dans la télévision, parce que je trouve que c'est un vrai. Là aussi, c'est un vrai challenge.
Et puis, il y a des choses à revoir, parce que finalement, c'est justement peut-être un petit peu comme la marque de prêt-à-porter dont tu relèves le challenge, c'est que la télé aujourd'hui est on se perd quand même sur à cause du digital, etc. Et qu'il faut revoir le modèle, quoi. Donc, il y a des choses à proposer, à renouveler. Il y a un vrai enjeu là-dessus.
Et j'ai même envie de mixer les deux. C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup, comme vous, créer un podcast ou en tout cas un format...
Un podcast audio une vidéo, je veux dire.
Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Donc, peut-être plus un podcast vidéo dans lequel j'inviterai des gens de la mode, des designers qui ne sont pas très connus, des gens qui travaillent... Les métiers dont on ne parle pas aussi, comme les distributeurs, les responsables de showroom, tu vois, des gens comme ça, pour les mettre en avant, pour découvrir un peu leur profil et leur expérience. Et j'ai toujours en tête, c'est un projet qui est en stand-by actuellement, mais j'ai écrit un concept de série documentaire sur les produits emblématiques du luxe, avec une vision à 360 sur des formats assez courts de 26 minutes.
France, du coup.
Voilà. En fait, c'est aussi pouvoir mettre en avant les pays qui ont un modèle du luxe. Donc, ça va être la France, mais ça va être aussi l'Italie ou les États-Unis. Il n'y a pas non plus beaucoup de zones dans le monde où le luxe est vraiment très implanté, ou la couture, en tout cas. Ça, c'est un projet que j'essaye de développer, que j'ai monté, j'ai écrit en 2019. Donc, ça remonte avec une amie. C'est quelque chose qui est toujours un peu qui est dans les tiroirs, mais... Il va falloir réouvrir ce tiroir prochainement.
Mais ouais, plein de beaux projets.
Ouais. Voilà.
Bah, super. Merci beaucoup, Léonore.
Merci, Charlotte.
Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Juillet saison 4. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vous abonner, à mettre des étoiles, des commentaires. C'est ce qui nous permet d'être de plus en plus écoutés et c'est important pour nous. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre nos comptes Agence Juillet et à nous écrire sur Insta, Facebook et LinkedIn. Nous vous répondrons toujours avec plaisir. On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies, saisissez vos rêves, vivez l'instant, osez la liberté. Soyez juillet.